Une fois n'est pas coutume dans l'année, je vous rends l'antenne à l'heure.
Vous mettez le mot de la bouche. Merci beaucoup Antoine, merci. C'est la dernière des dernières parties sous cette forme. Vous, vous ne bougez pas Antoine, merci. Ah, on vous retrouvera à cette même table, même à cette même place, à la rentrée. Pour cette dernière partie, nous vous avons voulu vous proposer un programme un peu spécial, mais toujours dans l'idée de cette dernière partie, c'est-à-dire, en général, il y a un invité et ce qu'on appelait un intervenant. Le mot n'a pas toujours été très heureux, mais on n'en a pas trouvé de meilleur, à vrai dire. Mais nous vous proposons aussi des archives. Parmi les quelques centaines de la dernière partie, il a bien fallu choisir choix cornélien. Choix cornélien effectué par une partie de l'équipe, bien sûr. Raphaël Bourgois, qui s'est assis derrière moi, c'est un peu bizarre. Viens là, Raphaël, viens devant. Clémence Marie, bien sûr. Et puis, trois des principaux, donc, intervenants de cette dernière partie depuis trois ans. Un philosophe, Mathieu Pot-Bonneville, bonjour.
Bonjour.
Et puis deux professeurs de sciences politiques, Loïc Blondiot et Frédéric Savicky. Bonjour à vous.
Bonjour Caroline.
Alors
bonjour.
Le principe de cette dernière partie aujourd'hui sera le suivant. Nous allons vous faire entendre à vous auditeurs et donc aussi à vous, chers intervenants, quelques extraits issus des trois dernières années de cette dernière partie. Extraits pris, comme la dernière partie le voulait, de sujets d'actualité problématisés ou d'essais. Mais nous commençons par un essai qui a marqué non seulement sa parution en 2013, mais aussi le monde entier, puisqu'il a rencontré un formidable succès planétaire, rare pour un auteur de sciences sociales. Je veux parler de l'économiste Thomas Piketty. Il était invité de la Grande Table 6 septembre 2013 à l'occasion des 50 ans de France Culture au Palais de Tokyo.
Je me vois comme chercheur en sciences sociales. Je pense qu'il n'y a pas de scientificité particulière à l'économie, c'est le moins qu'on puisse dire. On connaît à peu près rien sur rien en économie et en sciences sociales d'ailleurs en général. C'est le charme de ces disciplines, c'est qu'on part de bas, parfois de très très bas, et au moins on peut espérer faire des progrès. Je pense que les frontières entre économie, histoire, sociologie sont beaucoup plus floues que ce qu'on imagine parfois. Et je crois que ce livre est autant un livre d'histoire économique, d'économie. Et bon, finalement, je pense qu'il faut mieux partir des questions, essayer d'y répondre et pas trop se préoccuper de ces querelles de clochers. Et puis, au-delà des sciences sociales, je pense que la question de la répartition des richesses est trop importante pour être laissée uniquement aux chercheurs en sciences sociales. Justement, elle intéresse la littérature, elle intéresse le cinéma, elle intéresse tous les citoyens, parce que chacun a une opinion forte, se fait une représentation des inégalités qui l'entourent, dans la position dans laquelle il se trouve. Et donc, si j'ai recours à la littérature ou parfois au cinéma, c'est pour illustrer aussi comment ces représentations des inégalités, des classes sociales, se sont transformées au cours des derniers siècles, et d'essayer de faire le lien avec l'analyse qu'on peut faire de l'évolution du capital, de sa structure. Donc ce livre, c'est d'abord ça. J'essaye de raconter cette histoire du capital depuis le XVIIIe siècle. Alors il y a quelques pages à la fin sur les conclusions politiques qu'on peut en tirer, mais je dis d'emblée qu'on peut être en désaccord complet avec toutes mes conclusions finales et néanmoins trouver quelque intérêt aux 700 et quelques premières pages qui se contentent de raconter cette histoire. Et le but est d'abord que chacun ensuite puisse se faire une idée sur ce qu'on peut en conclure de tout ça.
Voilà comment travaille un chercheur en sciences sociales, donc l'économiste Thomas Piketty, auteur du Capital au XXIe siècle, paru aux éditions du Seuil. Donc le principe de cette émission, c'est que vous n'avez pas entendu, je le précise pour les auditeurs, vous ne savez pas du tout ce que nous vous avons choisi. Vous êtes comme les auditeurs, mais à cette différence près que je vais vous demander de réagir à chaque fois. Mathieu Pot-Bonneville, par exemple.
Les auditeurs réagissent généralement, ils trépignent derrière leur poste. Il y a deux choses que j'entends dans cette archive. La première, c'est la question des frontières des sciences sociales et entre les sciences sociales, qui a été une question régulièrement disputée ici. Thomas Piketty avance l'idée qu'il est possible tranquillement de traverser ces frontières. Je me souviens d'un autre économiste, Frédéric Lordon, qui avait un rapport beaucoup plus polémique à cette question du déplacement entre philosophie et économie, qui y voit des enjeux directement politiques. Et puis, ce que met en avant Thomas Piketty ici, c'est la question du caractère partagé de certains problèmes. Le fait que la question des richesses n'a pas vocation à être limitée au champ académique universitaire, quand bien même les spécialistes sont là. Je trouve que c'est très intéressant parce que la France se caractérise, pour moi qui travaille Régulièrement sur la question du débat d'idées dans le monde, la France se caractérise par l'existence d'un espace public, au sens de Habermas, c'est-à-dire d'un espace où les questions académiques communiquent avec les questions débattues dans le grand public. Cet espace est en train, menace de se polariser ou de se briser. Moi, j'ai l'impression que depuis quelque temps, on a un champ qui se fissure entre d'un côté des spécialistes qui parlent à d'autres spécialistes et de l'autre côté des polémistes qui construisent leur légitimité non pas seulement en dehors du champ académique mais contre celui-ci. L'intérêt de la remarque de Piketty à cet égard, c'est de tenir bon sur ce lien, sur ce fil entre les deux rives du débat public, parce que si cet espace-là se brise, à mon sens, les conséquences politiques sont considérables.
Frédéric Savicky.
Je profite de cette réflexion de Mathieu Pot-Botteville pour rebondir un peu là-dessus, parce que je crois qu'il y a un lien en plus avec la philosophie de l'émission, si on peut dire. Cette émission fait bien le lien, me semble-t-il, justement entre la production intellectuelle, la production notamment des chercheurs, dans cette deuxième partie notamment, effectivement, avec le débat public. Sauf que ce que pointe effectivement Mathieu, c'est que vous avez constitué un petit îlot dans un monde, malheureusement, où ces débats sont de plus en plus finalement dissociés. C'est-à-dire, si je prends le cas justement de ce qu'avait mis en évidence à l'agenda, Thomas Piketty, c'est les inégalités de richesse. Alors, richesse plutôt matérielle, patrimoniale, etc. Et c'est quand même frappant de constater que dans le débat public, alors là, dans l'espace public habermasien, ou dans ce qui est, disons, ce qui sont les lieux de médiatisation et de débats les plus regarder, les plus écoutés, on ne peut pas dire que cette question effectivement des inégalités de richesse ait constitué un clivage particulièrement marquant. Et là, on peut que s'interroger. C'est-à-dire, d'un côté, on a des centaines de milliers d'exemplaires de gens qui lisent individuellement, plus ou moins d'ailleurs, sans doute, mais pas simplement en France et dans le monde, qui prennent connaissance de faits qui établissent effectivement des mécanismes absolument, pourrait dire, structurels, très puissants, de renforcement des inégalités. Il n'y a pas que Thomas Piketty qui le montre. Et de l'autre, effectivement, un débat public, et pas simplement politique, pas simplement les acteurs politiques, mais en tout cas tous ceux qui sont, pourrait dire, en position de relayer, qui finalement, nous parle d'autre chose. Alors, on pourrait revenir sur l'autre chose, il y aura peut-être d'autres extraits. Voilà. Ça, et d'où, là je fais, je termine juste là-dessus, d'où l'importance, effectivement, de pouvoir continuer avec d'autres.
Ça va continuer, c'est pour les médias, mais les politiques, c'est un peu pareil aussi. Le monde politique n'a pas l'air de pouvoir se ressaisir vraiment de cela.
Les uns et les autres, d'une certaine façon, effectivement, on a l'impression que les politiques sont en écho. Alors, est-ce qu'ils sont plus attentifs? Est-ce que ceux qui les commentent, finalement, sont un peu à la remorque aussi des politiques, mais sont effectivement plutôt focalisés sur d'autres choses, d'autres enjeux, d'autres clivages. Peut-être aussi parce qu'effectivement, ils ont renoncé à agir, bien entendu, sur ces inégalités structurelles.
Loïc Blondiot ?
Oui, et Thomas Piketty est quand même assez exemplaire. Il a essayé de mener deux expériences qui ont complètement échoué, c'est-à-dire d'influence sur le débat politique à travers la réforme fiscale qu'il a portée en apportant des solutions qui n'ont pas été reprises par le gouvernement de l'époque, et puis à travers la primaire de gauche, dont il a été un des protagonistes, qui est aussi une forme d'innovation à laquelle ont participé des acteurs de la société civile, et le système politique continue comme si de rien n'était.
Alors si les essais ont parfois du mal à exister dans l'espace public est venu régulièrement à nous avec ces fameux sujets d'idées ou de société qui étaient des sujets d'actualité que nous problématisions avec Raphaël Bourgois qui enfin s'est assis autour de la table. Des questions de société, des questions de science, la fin de vie, le soin, les gènes, et puis des sujets d'actualité comme le genre. En septembre 2013, toujours, l'historienne américaine, spécialiste de l'histoire des femmes et du féminisme, Joanne Scott, était venue. L'intervenant ce jour-là, c'était bien entendu le sociologue Eric Fassin. Elle est professeure à l'Institute for Advanced Studies de Princeton. Elle était de passage à Paris quelques mois après les débats sur le mariage pour tous et en pleine querelle du genre à l'école avec la mise en place des ABCD de l'égalité à la rentrée 2013. Joanne Scott.
Moi, je crois que cette de protester la théorie de genre, la soi-disant théorie de genre, c'est un malentendu. Ça, on comprend pas que ça veut dire les études de genre. Il y a toute une différence entre une théorie de genre. Je crois que la théorie de genre, c'est une invention du Vatican pour donner l'impression qu'il y a une idéologie staliniste, marxiste, attachée aux études de genre. Les études de genre veulent comprendre comment les rôles, les conceptions, les idées de femmes, hommes, masculins, féminins, ont évolué dans l'histoire. Comment une culture, une société a compris qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des femmes ou des hommes. Je crois que c'est ça. C'est une série de questions posées sur l'évolution des idées sur what counts as.
Ce qui compte
comme femme, homme et le rôle dans la société.
Alors, on va revenir tout à l'heure sur vraiment ce que vous appelez, vous, le genre ou les études de genre, bien entendu, mais j'aimerais qu'on reste un temps sur ce débat, peut-être avec une question de vous, Frédéric Mettezo.
Oui, et le débat sur le mariage pour tous qui a soulevé un paradoxe, c'est-à-dire l'attribution d'une différence déclenche un processus d'exclusion. Mais pour demander l'égalité, on insiste sur sa différence.
Oui, c'était ma thèse dans deux livres que j'avais écrits sur l'histoire des femmes en France. La citoyenne paradoxale, c'était sur les féministes du 18e, 19e siècle, et aussi dans le livre sur la parité. Et c'était dans le livre sur la parité où j'avais avancé exactement ce paradoxe pour demander l'égalité. Il faut insister sur la différence des gens, en ce cas des femmes, qui étaient exclues.
Celle-là même qui est le ferment de l'inégalité.
Oui, c'est ça. Oui, mais c'est un paradoxe et il faut vivre avec ce paradoxe. C'est pareil pour les gens noirs, pour toutes les minorités, d'insister qu'il n'y a pas de différence, continue la discrimination contre la différence. D'insister, d'ignorer la différence, continue la discrimination. De reconnaître la différence aussi introduit la possibilité de répéter l'idée que l'égalité n'est pas possible. Je crois qu'il y a un sexe masculin et féminin, mais la définition, que signifie féminin, masculin, est une question ouverte.
France Culture, La Grande Table, Caroline Brouet.
Avec aujourd'hui quelques archives que nous proposons à trois des principaux intervenants de la dernière partie depuis ces trois années dans laquelle nous avons proposé d'ailleurs aux auditeurs cette formule, puisque ça fait 3 ans que cette formule existe de cette façon. Trois des principaux intervenants devenus donc des invités aujourd'hui, le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, Loïc Blondiou et Frédéric Savickis, ils sont tous les deux des chercheurs en sciences politiques et des professeurs de sciences politiques. C'est Mathieu Pot-Bonneville qui veut réagir à cette archive qu'on vient d'entendre de l'historienne américaine Joan Scott.
Oui, magnifique archive, magnifique leçon que cette idée de la citoyenne paradoxale. Dans un beau livre déjà ancien qui s'appelait « Logique du sens », Deleuze disait que le sens était produit, que le sens naissait, qu'il naissait des paradoxes. Et le paradoxe que met en avant Joan Scott ici, c'est un paradoxe qui ne cesse de travailler notre présent. Cette idée que pour affirmer l'égalité, il faut d'une certaine manière exhiber la différence et que l'exhibition de cette différence semble, dans un premier temps, contredire l'égalité. Ce paradoxe, il hante littéralement le débat public français sur de multiples plans. Je pense à la question des statistiques ethniques, par exemple, qui a été souvent de fois soulevée dans les sciences sociales. Cette idée que, au fond, le clivage qu'on répute indépassable entre les républicains et les communautaristes, c'est le clivage qui consiste à dire qu'il y a ceux qui sont pour l'égalité et ceux qui seraient pour les différences. Or, ce que d'emblée Scott dit, c'est que si vous voulez traiter de la question de l'inégalité homme-femme, eh bien, il y a à montrer où sont les femmes et où est-ce qu'elles ne sont pas. Et cette question-là est indépassable. Donc il y a là quelque chose de très important, et c'est intéressant que dans cette archive, on parte de la théorie du genre, des débats sur la théorie du genre et du fait que sur l'agenda contemporain, c'est quand même un événement. Le mot de théorie a été utilisé pour disqualifier une question, une pensée, un débat, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est une question pour les historiens de l'avenir, les historiens de la pensée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que la notion de théorie devienne stigmatisante?
Comme l'idéologie, parfois aussi.
Alors, il y a un parcours, effectivement, de la notion d'idéologie qui est passée du marxisme, de l'idée d'une structure inconsciente de la pensée chez Marx, à l'idée quasiment d'une doctrine, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'idéologie, c'est une doctrine. De la même manière, théorie est devenue quasiment synonyme de fabulation manipulatrice, quelque chose comme ça. Or, on ne peut pas faire des sciences sociales sans construction, sans élaboration théorique, sans prise en compte théorique. Après tout, il y a une théorie de la gravitation, ça n'a jamais empêché les cailloux de tomber.
Mathieu Pont-Bonneville, vous parliez de ce qui hante le débat public français, de ce qui occupe l'espace public. Vous êtes partis tous les trois de cette idée. Il en est un qui nous occupe depuis presque 2 ans maintenant. C'est bien sûr la question du terrorisme. L'état d'urgence, on en a beaucoup parlé dans cette dernière partie. Le droit par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui. Que faire également des terroristes? Après le débat sur la déchéance de nationalité, on a vu récemment celle de la perpétuité réelle arriver. Que faire des auteurs de crimes terroristes avec une peine de sûreté portée à 30 ans? C'est l'avocat, ancien ministre de la Justice Robert Badinter, que nous avions envie d'entendre en avril dernier, figure emblématique de la lutte contre la peine de mort. Nous avons voulu vous le faire réentendre. Robert Badinter.
Je ferai remarquer que nous avons aujourd'hui un système et à dimension européenne, celle de la Cour européenne des droits de l'homme et des conventions que nous connaissons. Qu'est-ce qu'est ce système? Et je rappelle les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. 1. Il ne saurait y avoir de perpétuité perpétuelle en ce sens qu'on enfermerait un homme en lui retirant tout espoir jamais de sortir de prison. Tout espoir, jamais, de sortir de prison. Pas d'espoir, pas de levain pour le changement. Simplement des fauves, c'est ainsi que les désignent les syndicats pénitentiaires, dans la prison, ils n'ont plus rien à perdre, de toute façon. Et croyez-moi, du côté des personnels pénitentiaires, quand on a la responsabilité, ne comptez pas sur eux pour accepter ce type de jure, et je les comprends parfaitement. Donc, vous ne pouvez pas ne pas avoir une forme, une lueur d'espérance. Ça ne veut pas dire que 3 jours après, 3 ans après, 30... Non. Au départ, vous avez, et là je reprends exprès, ce que dit la Cour européenne des droits de l'homme, il faut une, pour la perpétuité, une période, elle oscille entre 25 et un peu plus. C'est généralement 25 ans. À partir de laquelle vous prenez la mesure du changement, vous prenez la dimension de l'espérance possible. Et de là, vous avez ensuite des possibilités, par des voies, on appelle ça l'aménagement de la peine, de amener celui qui est condamné, qui a subi cette très longue peine, jusqu'à une réinsertion possible. C'est ça la voie européenne. Il serait quand même temps qu'on dépasse ce que j'ai entendu ressasser pendant des décennies. À chaque fois qu'un crime atroce, c'est tout de suite le vieil homme de la caverne qui est là, qui a dit « Ah, impossible, la peine de mort, tout de suite ». Bon, comme la peine de mort est hors de nos lois, je dirais hors de notre civilisation, alors on se rabat sur l'idée d'une peine perpétuelle, c'est-à-dire que vous fixerez le mur jusqu'à la fin de vos jours. Et la Cour européenne a raison. Ceci n'est pas compatible avec ce que sont les valeurs de la société européenne. Je voudrais quand même, face à l'émotion, rappeler ce que nous sommes, ce pourquoi nous nous battons, y compris face aux terroristes. Je vais vous, simplement, je déteste les lectures et surtout au micro, mais là je vais vous le dire. Kofi Annan, le secrétaire général des Nations Unies, le hasard faisait que nous étions ensemble à Madrid au moment où il y a eu le terrible attentat, c'était je crois en 2014, quelque chose comme ça. Et Kofi Annan, le lendemain il y avait une cérémonie en l'honneur des victimes, plusieurs centaines, il a prononcé ces mots que je rappelle, parce que je trouve qu'ils correspondent exactement à nos sentiments et à nos convictions, porter atteinte aux droits de l'homme, et là il parlait de la peine de mort, ne saurait contribuer à la lutte contre le terrorisme. Au contraire, cela permet aux terroristes d'atteindre plus facilement leur objectif, en donnant l'impression que la morale est désormais dans leur camp, et en créant des tensions, en suscitant la haine et la méfiance à l'égard du gouvernement, précisément chez ceux parmi lesquels les terroristes sont le plus susceptibles de trouver de nouvelles recrues, particulièrement chez ces jeunes gens que j'évoquais tout à l'heure. Donc, soyons simples et soyons lucides. Il y a, dans toutes les sociétés démocratiques européennes, la possibilité de très longues peines. Il y a, dans la plupart des sociétés européennes, des périodes de sûreté qui sont longues. Il y a la nécessité de réexaminer l'état et la condition du détenu après une longue période, et puis ensuite par palier. Ce système-là, on peut l'aménager, on peut l'améliorer, etc., mais il est le cadre, je dirais, moral dans lequel nous devons situer tout ce débat.
On l'entend, Frédéric Sabicki, c'est une question de droit, c'est une question de philosophie, c'est une question morale, c'est aussi une question politique au-delà des clivages gauche-droite.
Oui, alors l'intérêt de ce rappel très fort de Robert Badinter, c'est aussi de nous rappeler que l'Union européenne, ce n'est pas qu'un marché, mais c'est aussi des droits qui sont garantis par des tribunaux, par une jurisprudence, par des conventions, par des traités qui nous lient. Et je pense que par rapport au débat très très récent, c'est aussi important de le rappeler, parce que face à la montée effectivement de courants très réactionnaires et très conservateurs, un peu partout en Europe, c'est quand même aussi ce qui nous protège. Alors, il y a aussi une deuxième dimension que Robert Badinter n'évoque pas. Bien sûr, il y a cette question de cette surenchère à la prison, mais elle va très très loin, puisqu'on a été récemment jusqu'à envisager de pouvoir mettre sous les verrous des gens qui étaient suspects et qui n'avaient pas été, n'avaient pas de relation, on pourrait dire, criminelle avérée, quoi. Tout le débat sur les apprentis djihadistes, sur les gens qui regardent sur Internet des sites, etc. Là aussi, on a vu des paroles et des prises de position, y compris dans des espaces politiques ou idéologiques qui étaient jusque-là plutôt attachés à garantir les libertés publiques, assez inconcevables. Hein. On a effectivement, de mon point de vue, un vrai tournant réactionnaire ou néo-conservateur qui touche des secteurs très très importants de l'espace public. C'est très inquiétant.
Il y a déjà deux ans et demi maintenant, le 23 octobre 2013, la revue Vacarme proposait un manifeste contre le fascisme et peut-être surtout contre le fascisme qui est en nous. Vous parlez de la montée des courants réactionnaires, extrémistes, populistes, on en voit ici ou là un peu partout. Nous recevions ce jour-là Patrick Boucheron, historien, professeur depuis nommé au Collège de France. Nous l'avons reçu plusieurs fois à la Grande Table. Il était venu ce jour-là parler de son livre, extraordinaire livre, Conjurer la peur, essai sur la force politique des images. Il réagissait dans ce que nous allons entendre à la chronique de Raphaël Bourgois sur cette revue Vacarme, précisément. Écoutez Patrick Boucheron.
Je suis un historien médiéviste, c'est-à-dire une autre manière d'être contemporanéiste. Mais je suis aussi, je dirais, de manière increvable, disciple de Machiavel. Et Machiavel disait que lorsque quelque chose arrive, que ce quelque chose qui arrive, on n'en a pas idée, qu'on ne l'a pas souhaité, qu'on ne l'a même pas ni espéré ni craint, alors la première chose à faire, c'est de rendre avec exactitude des mots constater ce qui arrive sans se laisser intimider ni émerveiller par les mots anciens. Donc c'est une question qui est celle d'une certaine manière aussi de 68. Il y a ce beau texte de Sophry qui dit au fond la seule faute que je reconnais, c'est d'avoir utilisé une langue ancienne pour dire les choses si neuves que nous étions en train de construire. Alors, fascisme, oui, sans doute. Il a encore, d'une certaine manière, malheureusement, des beaux jours devant, devant lui. Mais en réalité, on voit très bien que, par exemple, si je reviens à Lorenzetti, il n'a rien empêché en disant que la seigneurie était une tyrannie. Il a simplement désigné l'adversaire, mais l'adversaire était d'autant plus puissant qu'il arrivait insidieux.
Alors peut-être parce qu'on a envie, encore une fois, de conclure sur la situation d'aujourd'hui. Ça s'est terminé comme ça à Sienne, en imaginant qu'il y ait des analogies, on l'a bien vu dans cette histoire. Est-ce que vous avez le sentiment, alors j'allais dire en tant que citoyen, qu'on est en train de vivre cette expérience-là, avec un risque que ça se termine aussi peut-être aussi mal, enfin en tout cas par une révolte populaire.
Alors de l'historien, vous vous faites visionnaire hein, maintenant.
En tant que citoyen, je vais vous dire, ce dont j'ai vraiment peur, c'est que nous ne puissions pas inventer les mots de la riposte. C'est-à-dire que nous nous laissions à ce point déborder par ce mauvais gouvernement, par l'appauvrissement de la langue politique. Dès lors que on prend les mots d'une certaine manière, que ce soit des mots anciens ou nouveaux, peu importe, mais dès lors que on se met, faute de mieux, de guerre lasse, à employer les mots de l'adversaire, ne serait-ce que pour dire bon ben l'assistana, en fait c'est plus compliqué que ça, ça n'existe pas. À partir du moment où on a utilisé par exemple ce mot empoisonné, assistana, on a perdu. Par exemple. Donc ça, vous dites l'étranger, c'est exactement la même chose. Et donc, c'est ce qu'il y a aussi de machiavélien dans cet état d'urgence d'aujourd'hui. Ce qu'il y a de plus politique aujourd'hui et peut-être ce qu'il y a de plus poétique, c'est-à-dire notre capacité ou non d'inventer les mots exacts du constat.
Loïc Blondiot.
Oui, alors effectivement, c'est un extrait très significatif de la réflexion de Patrick Boucheron, qui est vraiment un contemporain capital hein, pour nous aujourd'hui dans le monde des sciences sociales, et dont le livre effectivement magistral Conjurer la peur nous rappelle à quel point les démocraties sont fragiles et à quel point finalement il faut se prémunir contre notre propre tentation, notre propre pulsion de violence. Et pour faire le lien avec ce que disait Badinter, avant, il est clair qu'aujourd'hui nous vivons un processus à la fois d'abaissement du seuil de tolérance à la violence, celui-là même dont parlait Norbert Elias, et simultanément d'élévation du seuil de tolérance aux atteintes à la liberté. Liberté contre les autres, hein, contre effectivement les suspects, les migrants, etc. Mais nos libertés elles-mêmes sont en cause. Et donc il faut effectivement conjurer la peur, il faut effectivement, comme Patrick Boucheron, ne pas renoncer à espérer, mais dans ce monde de corruption du discours politique hein, qui caractérise la période actuelle, c'est extrêmement compliqué.
Alors, vous me faisiez justement remarquer quand on entendait Patrick Boucheron à l'instant, vous me faisiez justement remarquer que les extraits que nous avions choisis étaient assez... Quel mot avez-vous utilisé, Mathieu ?
Je crois que j'ai dit « ça va mieux
». C'est ça. Alors, on va quitter ce terrain des idées politiques pour entrer vers un autre champ de disciplinaire que nous avons beaucoup couvert ici dans cette dernière partie. C'est celui de la théorie littéraire. Ils ont été nombreux. Les Vincent Message, Lionel Ruffel, Olivier Cadio, Françoise Lavocat, William Marx, Philippe Villain, Michel Zinc à venir autour de cette grande table délivrer leur regard sur la théorie littéraire, qui faisait aussi le lien avec la première partie. Gérard Genette, par exemple, est venu, critique et théoricien littéraire, auteur d'un très grand nombre de livres devenus des classiques. Il a entrepris il y a quelques années d'écrire une trilogie autobiographique, sorte de pendant à son œuvre théorique. Le dernier apparu en 2014 aux éditions du Seuil sous le titre Bardadrac, épilogue.
J'ai le sentiment d'être dans une possibilité de terminaison, mais sans savoir, et je crois sans dire, que cette possibilité sera ou non respectée. Si j'en ajoute, si ces allongeailles, si ces allongeailles ont ont un point d'aboutissement postérieur à ma propre mort, ça regardera je ne sais qui d'ailleurs, des éditeurs peut-être, je ne sais pas. Si c'est antérieur, je ne sais pas très bien ce que je ferai. il y aura sans doute un moment, peut-être, où je serai un petit peu embarrassé par cette prise de position un peu audacieuse sur ma propre disparition. Ce que j'ai vécu, par définition, ne m'est donné que par le truchement de la mémoire. Je n'écris pas sous la pression d'un événement immédiat. J'évoque toujours des événements plus lointains, plus appartenant plus ou moins au passé. Donc tout cela, mon écriture est filtrée, enfin plutôt mon existence est filtrée par la mémoire, et c'est cette mémoire qui me dicte mon écriture. Je reçois ces souvenirs, enfin ces événements de mémoire, comme des opérateurs de fiction. C'est pourquoi je renacle beaucoup à ce qu'on présente ces livres comme autobiographiques. D'une part, pour une raison formelle qui est que qui dit autobiographie dit récit continu, etc. Définition canonique. Évidemment, ça n'est pas mon cas. Et d'autre part, parce que je ne vise pas du tout une fidélité factuelle au déroulement de mon écriture, de mon existence. Je reçois mon existence, encore une fois, comme filtrée et comme scandée par les activités mémorielles que je reçois et que je transcris, si on peut dire, presque telle quelle, d'où une forme qui est inévitablement fragmentaire, ce qui n'exclut effectivement pas la dimension romanesque, parce que effectivement les épisodes vécus ou rêvés ou remémorés, en tout cas, que j'évoque, font signe à ce qui est la part romanesque de mon existence.
Voilà, la mauvaise langue qui est Mathieu Pott-Bonneville me faisait remarquer que c'était pas beaucoup plus léger. Eh bien, du coup, j'ai demandé à celle qui a choisi cet extrait, malgré tout, très beau, qui est Clémence Marie, de nous rejoindre autour de la table. Clémence, vous avez choisi cet extrait pour quelle raison ?
Je l'ai choisi parce que je trouve que c'est un extrait très émouvant. J'étais très touchée quand il racontait ça au micro, la manière dont il analysait la valeur quasiment testamentaire de cette dernière œuvre, comment il arrivait à concilier dans une pensée en mouvement à la fois sa vie et son œuvre, et la manière dont il pointait sa propre finitude. Je trouvais que c'était très touchant, surtout de la part d'un quelqu'un qui passe pour avoir une pensée très froide, très théorique de la narratologie, donc c'est pas très facile. Mais voilà, là, c'était quasiment comme du Proust en temps réel.
Raphaël, vous aviez envie d'y ajouter quelque chose ?
Pas vraiment à ce que vient de dire Clémence Marie, mais je crois qu'il me revient au nom de l'équipe, évidemment, en tant que votre adjoint, Caroline, de dire quelques mots sur ces 50 collaborations ensemble. 6 ans de Grande Table, vous l'avez dit, mais avant c'était avec Hervé Gardette. 5 ans tous les deux. Alors 5 ans qui se résument en 3 mots, 3 expressions peut-être. Ressasser, répéter chaque jour. De quoi on parle ? Va plus loin que ta première idée pour l'invité. Et enfin, c'est quoi la première question ? Je crois que ça, c'est vraiment ce qui nous a occupés tous les deux pendant ces 5 ans. Les auditeurs ne se rendent pas forcément compte de l'exigence que demande ce type d'émission. Les deux parties, évidemment, exigence personnelle, exigence dans les contenus, on l'entend, il fallait le dire. Vous avez dit pas d'autocongratulations, je t'en supplie. Mais bon, il faut quand même un petit peu rendre à César ce qui est à César. Alors, quand vous m'avez appelé pour être votre adjoint, j'étais évidemment flatté.
Tu dis vous, là, tout d'un coup.
Oui, c'est vrai, c'est la convention de la radio. Alors quand tu m'as appelé pour être ton adjoint, Caroline, j'étais évidemment flatté. C'était, j'ai besoin d'un interlocuteur, quelqu'un avec qui réfléchir. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'évidemment, il est venu derrière Incao da Venom, derrière la flatterie. Tu m'as dit, bon, il va quand même falloir m'arracher ce poil géant que tu as dans la main. La technique, c'est la technique du zéro répit, SMS, mail, à chaque heure du jour et de la nuit.
T'exagères.
Il y a eu des engueulades, c'est vrai, mais toujours productive. Alors c'est loin d'être la fin pour nous, d'abord parce que évidemment, Olivier Gesbert va reprendre cette tranche ensuite, puisque tu vas ouvrir les week-ends, je vais les terminer. On ne sépare pas comme ça un vieux couple.
Merci Raphaël Bourgois. Alors évidemment, c'est l'heure des remerciements. Merci à tous les trois. Ah ben finalement, c'est Loïc Blondiot qui vient de céder sa place à Sonia Kronlund qui vient de s'asseoir. Mais j'allais remercier Loïc qui passait derrière. Mathieu Pott-Bonneville et Frédéric Savicky. Évidemment, l'heure des remerciements. Ils sont nombreux à être passés à la grande table. Les attachés de production, Fanny Richer, Corinne Amar, Brigitte Masson, Boris Pinault, les collaborateurs, Camille Renard, Laetitia Cordonnet, Sarah Bernard, Ségolène Darny, Mathilde Unger, les stagiaires, Caroline Bouchier, Tiffaine Malfette, Camille Imbert, Thibaut Bécchini, Camille Ferré, Antoine Sims, Coquelicot Vital et les autres, les chroniqueurs des saisons précédentes, Thibaut Sardier, Aude Tortuyot, Delphine Vaudor, les réalisateurs, Doria Zénine, Perret Legras, Omanina, mais aussi Marie-Laure Ciboulet, Annabelle Brouard, Michel-Ange Vinti pour les plus assidus, les interprètes Evder, Pascal Fougère, Paloma Goulmeau et naturellement Xavier Combes et Michel Zlotowski. Last but not least, l'équipe actuelle sans qui je n'aurais pas pu faire les émissions au quotidien. Vous l'avez dit, Raphaël Bourgois, Clémence Marie, Jeanne Léos, Henri Leblanc qui nous a rejoint cette année, Lucie Aubourg qui va reprendre ses chères études et Philippe Baudouin, le réalisateur de cette émission. Je suis obligée de remercier Bruno Patineau, ancien directeur de la chaîne, de m'avoir donné la chance de faire cette émission, Olivier Poivre d'Arvor de m'avoir gardé et Sandrine Trainer de m'avoir entendu et donné une immense liberté. Enfin, merci à tous les auditeurs de votre écoute, de votre fidélité, de vos mails, de vos tweets, de vos encouragements, de vos critiques, de m'avoir fait savoir à quoi ce que vous deviez à cette émission et en quoi ce travail comptait aussi pour vous. Mais La Grande Table continue sous une forme différente. Cet été, c'est Lucille Comeau et puis Maëlys Bessery qui couvriront les festivals et ce dès lundi. Et à la rentrée, vous l'avez dit Raphaël, c'est Olivia Gesbert qui reprendra le flambeau. Ce qui est bien avec les émissions dont on est fier, c'est qu'elles puissent exister, même si vous vous arrêtez. Bon vent à La Grande Table qui a encore de belles années devant elle. Et pour ma part, donc, je vous retrouverai avec joie, enthousiasme et énergie de le 3 septembre aux Aurores pour une nouvelle matinale du samedi qui sera une petite grande table avec de la culture, de l'information et des idées, car on ne se refait pas. Bel été à tous, pardon pour cette minute de retard. Sonia Kronlund qui est là donc dans le studio. Merci
bonjour
d'être
Caroline.
Là. Bonjour,
c'est à vous. 6 ans de bonjour. Bonjour Caroline Brouet. J'ai compté que ça fait 1600 fois que je vous dis bonjour.
C'est bien de changer.
Donc aujourd'hui, je vous dis bonjour. Vous allez nous manquer et au revoir.